Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte au ton assez tranché, on va dire. Il s'appelle « Le basculement des chairs ».
C'est un article de Florian Rouanet pour sa publication « Ordo Integralis ».
Exactement. Et notre objectif, c'est de décortiquer la thèse centrale de ce document. L'idée, c'est qu'un point de bascule fondamental a eu lieu dans l'Église catholique.
Et un moment très précis.
Oui, 1958, la mort du pape Pie XII et juste après, l'élection de son successeur. Angelo Roncalli.
Qui deviendra Jean XXIII.
Et pour l'auteur, ce n'est pas juste une succession, c'est une subversion de l'Église par le modernisme, par un œcuménisme libéral maçonnique même. Et tout ça aurait culminé avec le Concile Vatican II.
Ce qui est fascinant ici, c'est la perspective adoptée. Le texte se positionne clairement dans un courant de pensée catholique qu'on appelle traditionnaliste.
D'accord.
Et pour bien comprendre l'argumentaire, il faut saisir certains termes que l'auteur définit lui-même. Il y a l'aggiornamento, cette fameuse mise à jour de l'Église voulue par Jean XXIII.
Oui.
Mais il y a surtout le sede vacantisme. Et ça, c'est la clé de lecture de tout l'article.
Alors, le sede vacantisme, qu'est-ce que c'est exactement?
Eh bien, c'est une position, disons, radicale. Ça veut dire que pour les tenants de cette doctrine, le Saint-Siège, le siège de l'évêque de Rome, est vacant. Sede vacante en latin.
Vacant depuis quand?
Depuis la mort de Pie XII. Pour eux, il n'y a plus de pape légitime depuis 1958.
Ah oui, c'est une position extrême.
Totalement. Ça remet tout en cause, la hiérarchie, les sacrements. C'est vraiment le prisme à travers lequel l'auteur analyse tous les événements qui suivent.
Parfaitement posé. Alors, déballons ça. L'auteur, d'ailleurs, il structure son analyse comme un plan d'attaque en quatre manches. C'est comme ça qu'il l'appelle.
C'est assez parlant.
Oui. Suivons sa structure pour voir comment il construit son argumentation. La première manche, elle s'ouvre sur une image très forte. La mort de Pie XII est décrite comme l'ouverture d'une fosse.
C'est un mot très dur.
Oui. Il dit qu'en quelques jours, le trône de l'impiété s'est installé là où se trouvait la chair de la vérité. Le ton est quasi apocalyptique.
Et l'article se concentre tout de suite sur l'élection d'Angelo Roncalli. Le portrait qui en est fait est déjà suspect, disons. On nous dit qu'il a 77 ans, qu'il est élu au 11e tour de scrutin.
Ce qui est assez long.
Assez long, oui. Mais le premier vrai signe pour l'auteur, c'est le choix de son nom, Jean XXIII. Il qualifie ça d'offense à l'histoire.
Une offense ken. Pourquoi? Jean, c'est un nom de pape assez courant, non?
Justement, pas celui-là. Le nom de Jean XXIII, il avait été porté au 15e siècle par un antipape durant le grand schisme d'Occident.
Ah d'accord.
C'était un nom brûlé, en quelque sorte, inutilisé depuis 500 ans. Pour l'auteur, ce n'est pas une coïncidence. C'est un acte délibéré, un signe de rupture.
Une sorte de réhabilitation d'une figure schismatique.
Voilà. Le premier pion est avancé. Et l'auteur mentionne aussi brièvement ce qu'il appelle l'affaire dite du cardinal Siri.
Oui. Qu'est-ce que c'est que cette affaire?
C'est une théorie assez tenace dans ces milieux. L'idée, c'est que le vrai élu du conclave de 1958, ça aurait été le cardinal Siri, un traditionnaliste.
Et que s'est-il passé?
Il aurait été forcé de se retirer sous la pression des cardinaux modernistes. L'auteur précise que c'est un fait de l'histoire controversé. Mais le simple fait de le mentionner, ça installe un climat de suspicion, d'usurpation.
D'accord. Le décor est planté. On a un usurpateur sur le trône de pierre. Et ça nous amène à la deuxième manche. Qui a applaudi cette élection?
Exactement. L'article analyse qui sont les soutiens du nouveau pape. Et alors que la presse le surnomme « le bon pape ».
Oui, c'est resté ça d'ailleurs.
Eh bien, l'auteur, lui, il souligne que les félicitations les plus chaleureuses proviennent de ceux qu'il considère comme les ennemis les plus acharnés de l'Église.
C'est un retournement complet de la situation, ce qui pourrait être vu comme un succès et présenté comme une preuve de trahison.
C'est exactement cette logique, et il donne des exemples très précis. Il cite un ouvrage d'Yves Marcedon, qu'il décrit comme un franc-maçon de tradition.
Ah oui.
Qui se serait réjoui de la chute des Bastilles ecclésiastiques. Pour l'auteur, une approbation venant d'un franc-maçon, c'est le baiser de la mort.
La confirmation que le loup est entré dans la bergerie.
Tout à fait. Et il ne s'arrête pas là. Il liste aussi les félicitations de l'archevêque anglican, du grand rabbin d'Israël, du président des églises adventistes.
Un bel élan de dialogue interreligieux vu de l'extérieur.
Sauf que dans sa grille de lecture, chaque main tendue est une preuve que le pape abandonne la doctrine traditionnelle. Cet accueil positif, c'est la preuve d'une rupture.
D'accord. Donc après avoir établi l'identité de l'homme et de ses alliés, la troisième manche s'attaque aux actions concrètes, les manœuvres tactiques, comme il dit.
La première, c'est une décision qui peut sembler administrative. L'augmentation du nombre de cardinaux.
Ah oui!
Oui. L'article nous rappelle qu'une règle fixée par Sixte V en 1586 limitait leur nombre à 70.
En référence aux anciens d'Israël.
Voilà, c'était très symbolique. Et Roncalli brise cette tradition.
Et pour l'auteur, ce n'est pas pour des raisons pratiques, j'imagine.
Pas du tout. Il présente ça comme un coup de célérité, une manœuvre politique pour noyer les cardinaux fidèles à Pie XII et créer une majorité favorable à ses réformes.
Préparer le terrain, en somme.
Préparer le terrain pour le grand projet, l'annonce du concile le 25 janvier 1959.
Le cœur de la critique.
Exactement. Le texte oppose cette décision à la prudence de Pie XII, qui, selon une citation, aurait justement craint les novateurs qui veulent démanteler la chapelle sacrée.
D'un côté le gardien, de l'autre l'apprenti sorcier.
C'est tout à fait ça. Et ce qui est crucial pour l'auteur, c'est la nature de ce concile. Il fait une distinction sémantique qui est fondamentale pour lui.
Lesquelles ?
Il dit que les 20 conciles précédents étaient œcuméniques, c'est-à-dire universels, doctrinaux. Leur but était de définir la foi.
Et celui-ci ?
Vatican II. Celui-ci serait œcuméniste.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire orienté vers le dialogue avec les autres confessions. Pour l'auteur, c'est une trahison. Le but n'est plus de convertir le monde, mais de converser avec lui. Et la preuve, c'est la création du secrétariat pour l'unité des chrétiens.
On arrive alors à la dernière partie, la quatrième manche. C'est le choc des visions du monde.
Oui, c'est la confrontation finale. D'un côté, il y a de nouveau une citation attribuée à Pie XII, qui exprime la crainte que l'Église en vienne à douter, à croire que l'homme est devenu Dieu. C'est la vision des prophètes de malheur.
Et en face de ça ?
En face, il y a le discours d'ouverture du Concile par Jean XXIII. L'auteur le cite. Le pape y exprime son complet désaccord avec ses prophètes de malheur et affirme que l'Église doit se tourner vers les temps présents.
Et cet optimisme, pour l'auteur de l'article, c'est le problème fondamental.
C'est la preuve de la subversion. Il analyse ça comme un humanisme maçonnico-compatible.
C'est une formule.
C'est une formule, oui. Ça veut dire une vision du monde naïve, qui croit au progrès, qui oublie le péché originel. Une vision qu'il oppose au réalisme hiérarchique de l'Église d'avant.
Alors, que faut-il retenir de tout ça ? Comment est-ce qu'il boucle son argumentation ?
Eh bien, la conclusion est sans appel. L'article dépeint une véritable prise d'otage spirituelle. Il conclut que l'élection de Roncalli et Vatican II, ça marque le remplacement de la religion traditionnelle par une nouvelle conception où l'homme se fait Dieu.
Ce qui justifie la position cédévacantiste du début.
C'est la justification finale. Face à cette hiérarchie qui a fait défection, ceux qui maintiennent le constat cédévacant et s'en tiennent à la tradition sont décrits comme l'avant-garde du petit reste.
Il y a presque une dimension prophétique là-dedans.
Complètement. Il s'appuie sur des textes prophétiques, comme celui de la Salette, « Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist » pour donner un poids eschatologique à son analyse. On n'est plus dans l'analyse historique, on est dans la lecture de la fin des temps.
C'est fascinant de voir comment l'analyse est construite. Qu'on soit d'accord ou non, chaque détail est interprété comme un signe, une pièce à conviction.
Oui, le choix d'un nom, une règle administrative, le ton d'un discours.
Rien n'est laissé au hasard, tout fait sens dans sa grille de lecture.
C'est la force de ce type de rhétorique. Elle crée un système où il n'y a plus de coïncidence. Seulement des conspirations ou des signes. Ça offre une explication totale et cohérente à une situation qui autrement pourrait sembler chaotique.
Et au fond, au-delà de ce contexte précis, ça soulève une question beaucoup plus large.
Oui, tout à fait. Ça touche à la manière dont les institutions, quelles qu'elles soient, gèrent le changement.
Cette tension entre la tradition et la nécessité de s'adapter.
Exactement. Et la question qui reste, c'est à partir de quel moment une volonté de mise à jour, un aggiornamento, est-elle perçue non plus comme une évolution, mais comme une trahison de la mission originelle par une partie de ses membres les plus engagés et comment ces membres justifient leur propre dissidence.
En affirmant être en réalité les seuls vrais fidèles. C'est une dynamique qu'on retrouve dans de très nombreuses crises institutionnelles, bien au-delà de ce seul article.